Vous êtes française ou français et vous résidez à l'étranger ? Les élections européennes arrivent à grands pas. Rendez-vous le dimanche 9 juin pour élire les représentants français au Parlement européen. Ou le samedi 8 juin si vous résidez sur le continent américain ou dans les Caraïbes. Bon vote !
Un podcast France Culture.
Après les tribunaux de commerce et les tribunaux des affaires familiales, direction les prud'hommes où transitent chaque année près de 100 000 dossiers. Une juridiction sous le feu des critiques depuis les ordonnances Macron de 2017. Depuis cette date, les indemnités sont plafonnées en cas de licenciement abusif. Conséquence, le nombre de saisies s'est effondré, les délais sont toujours aussi longs et des accusations de justice de classe sont apparues. Car si les cadres continuent de recourir aux prud'hommes, les salariés plus modestes, eux, jettent l'éponge. Pour ce troisième épisode de notre série sur les tribunaux économiques, nous avons invité Evelyne Cerverin, juriste et sociologue, directrice de recherche émérite au CNRS, ancienne membre du Conseil de la magistrature, autrice de nombreuses études et rapports sur les prud'hommes pour le ministère de la Justice. Également avec nous Julie Valentin, maîtresse de conférences en économie à l'Université Paris 1, chercheuse au Centre d'économie de la Sorbonne. Une émission préparée par Léa Sabourin, Diane Devancet, Anouk Milliot, Tina Young et Léopold Thiévan.
Vous savez ce que c'est que le Conseil des Prud'hommes ?
Non.
Vous n'avez jamais entendu parler du Conseil des Prud'hommes ?
Non.
Pas du tout, monsieur.
Quand une société est en désaccord avec une autre, ou alors je crois que c'est... Oui, c'est ça, ouais. Des choses comme ça, ouais. Entre les sociétés. Je ne suis pas très bien au courant.
Alors, c'est... les Conseils des Prud'hommes servent en quelque sorte à défendre les causes de litiges entre patrons et employés.
Savez-vous les conditions qu'il faut avoir pour pouvoir être électeur ?
Je suppose d'abord qu'il faut être français. Et qu'il faut avoir au moins 25 ans, et ne pas avoir subi de condamnation, avoir un casier judiciaire vierge.
Bonjour Julie Valentin et Evelyne Cerverin.
Bonjour.
Merci d'être avec nous aujourd'hui. On vient d'entendre une archive de 1968. Aujourd'hui encore, le Conseil des Prud'hommes est une institution mal connue, Evelyne Cerverin.
Oui, finalement, on nous connaît les tribunaux que lorsqu'on en a besoin. Il se trouve quand même que le Conseil du Prud'homme existe depuis 1806. Et simplement, ils ont beaucoup changé en termes de, même d'organisation, de compétences. Je crois que là, on peut prendre comme date 1806, premier Conseil du Prud'homme, hein, c'était à Lyon. Et ensuite, la révolution de 1848, dans laquelle on introduit le paritarisme. Et puis finalement, on peut aller jusqu'en 1979, où on a généralisation du Conseil des prud'hommes qui concerne toutes les relations contractuelles de travail.
Oui, il y a eu énormément de changements, en effet. Mais justement, dans quel contexte, est-ce que ces tout premiers conseils de prud'hommes sont apparus au début du 19e siècle ?
Alors justement, il y a une vraie différence, et je pense qu'il peut nous servir de fil conducteur, c'est que les conseils de prud'hommes ont d'abord été des conseils de fabrique. C'est-à-dire qu'ils étaient présents à côté des fabriques. On les créait auprès des fabriques, alors qu'il a fallu attendre 1907 pour qu'il y en ait partout. Donc, il y avait des compétences qui étaient incroyablement proches du processus de production. Et le Conseil Prud'homme travaillait sur les acquis, les livres ouvriers, des choses qui étaient dans la vie quotidienne de la production. Et là, évidemment, on a complètement changé de paysage. C'est maintenant le juge du contrat de travail, contentieux des affaires individuelles, puisque tout ce qui concerne le collectif relève des juridictions de droit commun.
Et donc, au début du 19e siècle, ce sont les soyeux de Lyon qui réclament à Napoléon une juridiction d'arbitrage.
C'est ça. Et de fait, c'était vraiment au départ, décret par décret, on les créait là, dans les villes de fabrique. D'ailleurs, le texte disait, dans les villes de fabrique, là où le gouvernement le jugera convenable. Donc le lien avec la fabrique était tellement étroit, et en plus toutes sortes de relations entre les patrons, les ouvriers. Il y avait aussi des procès-verbaux hein, pour les contraventions à loi et règlement. Bon, je parlais trop technique, mais c'est vrai qu'il y avait cette implantation territoriale qui était au plus proche du processus de production, on va dire des lieux de production.
Et dès le départ, le rôle des prud'hommes, c'était de juger les litiges liés à la mauvaise exécution d'un contrat de travail de droit privé ?
Non, pas du tout. Non, non, ça c'est arrivé bien plus tard. Là, si on se pose maintenant sur les définitions qui sont données, c'est maintenant que c'est le juge du contrat de travail, lorsque, et aussi d'ailleurs, non seulement les salariés de droit privé, mais aussi des salariés, des personnels des services publics, lorsqu'ils sont employés dans des conditions du droit privé. Donc en fait, c'est les juges du contrat de travail. Donc c'est des juges des rapports individuels. On reviendra sur cette question.
Cette question du contrat de travail, elle est essentielle. Et d'ailleurs, elle a été au cœur de réflexions de théoriciens de l'économie, Julie Valentin.
Oui, donc je pense que pour arriver à comprendre en tant qu'économiste qui est des prud'hommes, il faut se représenter la relation de travail autrement que comme un échange de revenus contre du temps disponible. La plupart des économistes ont évidemment maintenant cette représentation, même une représentation assez riche finalement, puisque par exemple on peut voir ce que Thomas Coutreau et Coralie Pérez ont pu montrer, à quel point en fait pour les gens aujourd'hui ils engagent de leur personne dans la relation de travail. Et donc, il faut bien tenir compte de ce que, dans le contrat de travail, ce que disait Herbert Simon en 51, ce qui se passe, c'est une mise à disposition du salarié, mais dans un cadre bien défini et bien délimité. Et c'est là-dedans que le prud'homme, c'est là que se trouve la nécessité des prud'hommes pour que soit bien délimitée cette mise à disposition qui détermine beaucoup de choses de la façon dont l'employeur peut décider du fonctionnement de la relation de travail. Il a une possibilité d'organisation très large.
Donc les prud'hommes existent parce qu'il y a un rapport de subordination entre un employeur et son salarié, parce qu'il y a une inégalité de position, Julie Valentin.
Je ne sais pas si je dirais parce que, ça ne plairait pas à Evelyne, mais je pense qu'en tout cas il y a un besoin du prud'homme, des conseils de prud'homme, parce qu'à partir du moment où un salarié se met à la disposition dans des limites précises, il faut que ces limites puissent être discutées. Et par ailleurs, effectivement, pour reprendre un petit peu la perspective historique que vous proposiez, peut-être pour compléter d'un point de vue très économique, en fait, la nécessité des prud'hommes, elle arrive aussi avec la nécessité de la relation de travail de long terme. En fait, une fois que finalement la relation de travail, pour le travail, il faut qu'il s'inscrive dans la durée, ça a mis beaucoup de temps avant que les salariés entrent dans cette relation-là. Mais évidemment, la rupture de la relation de travail qu'on trouve aujourd'hui, elle devient très importante et elle a un enjeu bien plus fort qu'elle ne pouvait avoir dans les années 50.
Et vous disiez qu'il y avait eu beaucoup de changements, Evelyne Servérin. En effet, dès le 19e siècle, une partie des prérogatives de ces conseils de prud'hommes ont disparu parce qu'il y a eu le développement de la protection sociale et du droit syndical.
C'est pas lié à ça. En réalité, la première généralisation, c'est 1907. C'est-à-dire qu'on n'a plus besoin d'avoir un décret spécial lié à la fabrique, mais on en instaure partout. Il faut savoir quand même qu'en un siècle, on en a créé... Alors, je vais donner quelques chiffres pour vous donner les ordres de grandeur. En un siècle, on en avait créé 153. De 1806 à 1907. Et combien croyez-vous qu'on en est maintenant? Eh bien, on en a 210. C'est-à-dire qu'à peine plus... Donc, ils couvraient un espace, et en territoire, ils étaient vraiment beaucoup plus présents. Maintenant, on a abandonné, il y a disparition, la généralisation, c'est 1979, hein, en gros. On crée d'ailleurs la section encadrement, au passage, sur laquelle on reviendra. C'est-à-dire qu'on les trouve maintenant partout. C'est une juridiction de droit commun. D'ailleurs, on pourrait très bien la remplacer par un juge judiciaire ordinaire, on n'a pas besoin de la parité.
Hier matin, au tribunal de commerce d'Avignon, en présence de nombreuses personnalités civiles et militaires, à la tête desquelles M. Austin, préfet du Vaucluse, s'est déroulée l'audience solennelle d'installation du Conseil de Prud'hommes, séance présidée par M. Joseph Delière. Après l'élection du bureau 67, au cours d'une brève allocution, le président du Conseil des Prud'hommes, après avoir rappelé que les conseils de prud'hommes français étaient les plus anciens tribunaux de travail du monde, souhaita que les réformes de l'appareil judiciaire laisse intacte une juridiction plus que jamais indispensable.
Voilà, il est question de réforme dans cette archive du 18 janvier 1967. En effet, des critiques émergent à cette époque-là, Éline Cerverin, contre l'institution prud'homale.
Oui, alors, ce qui est extraordinaire avec les critiques, c'est qu'ils sont critiqués depuis le début. C'est-à-dire qu'au 19e siècle, on voyait croître le nombre de conseils de prud'hommes. Et puis, il y a une relation d'hostilité de la part des juristes, hein, qui demandaient leur suppression. En disant des choses qui sonnent à nos oreilles, quand on le regarde maintenant, 1889, voilà ce qu'on pouvait écrire. Eh bien, absence d'indépendance des membres, on demande le retour des tribunaux de droit commun. Et puis ensuite, on a continué, on a dénoncé. C'est-à-dire qu'on n'a pas arrêté de dénoncer les prud'hommes.
Mais dans les années 60 et 70, ces critiques étaient assez légitimes. L'institution avait vieilli et peut-être qu'elle représentait trop une France industrielle et qu'elle était en décalage avec l'évolution du marché de l'emploi, Julie Valentin.
La critique sur... Pour le coup, je ne saurais pas répondre à ça.
Parce que c'est vrai qu'il y a eu cette réforme de 1979 que vous avez évoquée, Éline Cerverin. Qu'est-ce qui légitimait, qu'est-ce qui justifiait une telle réforme?
L'extension, c'est-à-dire le périmètre des relations contractuelles de travail qui s'est étendu. Et encore, il ne faut pas oublier qu'on a les litiges des personnels des services publics aujourd'hui, employés dans les conditions du privé. Donc, ça a tendance à couvrir l'ensemble des relations contractuelles qui relèvent du Code du travail.
Mais, avec cette obligation d'un conseil par département,
c'est ce que vous voyez notamment cette loi de 1979. Par ressort du tribunal judiciaire maintenant. Effectivement, on a beaucoup réduit. On a quand même été jusqu'à plus de 280 conseils de prud'hommes. Et progressivement, la fameuse réforme Dati, 2008, elle a réussi à supprimer 63 d'un coup. De fait, ça reste une implantation territoriale. Le principe, c'est qu'il y en a partout sur le territoire.
Donc ça, c'est principalement ce que prévoit cette loi Boulin de 79.
Voilà.
Mais ça a aussi permis aux cadres d'obtenir une représentation spécifique et au fait que les salariés employés par des associations privées pouvaient relever de la juridiction prud'homale. Il y a eu quand même un certain nombre de changements. C'est vraiment une loi très importante, cette loi de 1979.
Alors, à cause de cette extension de l'encadrement, justement, et on va le revoir, parce qu'effectivement, alors qu'ils étaient vraiment tout en au bout de la chaîne, ils remontent. Et tout d'un coup, une sorte de préemption des cadres d'une structure qui n'était pas faite pour eux, au départ.
Dites-moi, Roger, votre travail est-il achevé ?
Pas tout à fait, c'est presque fait.
Y'a pas de soucis, aucun ennui, tout sera bien fait pour Mimi.
Parfait, parfait, et vous rendrez ?
Dossier classé et terminé.
Sur le suivant, nous sommes penchés.
Monsieur, monsieur, que faisons-nous pour vendredi ?
Je vous accorde l'après-midi.
Quel bonheur, oui, quel bonheur. Du matin jusqu'à 6h.
Parce que le monde du travail ne ressemblera jamais à ça, nous aurons toujours besoin des prud'hommes. Prud'homme 97, le 10 décembre, à vous de voter.
Vous écoutez France Culture en 2024. Entendez-vous l'écho? Nous continuons à évoquer les enjeux économiques et sociaux des prud'hommes avec la juriste et sociologue Éveline Cerverin et l'économiste Julie Valentin. C'était un spot publicitaire réalisé en 1997 par le ministère du Travail et des Affaires Sociales. Alors comment fonctionne le Conseil des prud'hommes aujourd'hui? C'est une juridiction qui est fondée sur l'intervention de juges consulaires comme au tribunal de commerce et sur le système de la parité. Est-ce que vous pouvez nous expliquer tout cela, Éveline Cerverin?
Alors, déjà, moi je crois qu'il faut bien distinguer la question de l'organisation et du fonctionnement des conseils des usagers des conseils de prud'hommes.
Justement, sur les conseils, c'est ma question.
Voilà, sur les conseils. Consulaires, non. Consulaires, ça renvoie au tribunal de commerce. Donc, en fait, c'est une juridiction composée de juges non professionnels qui fonctionne de manière paritaire. Et la parité, d'ailleurs, elle était depuis 1848. Égalité entre employeurs et salariés, d'où le nombre de conseillers prud'hommes qui est autour de 14 000 ou divisé par deux, puisqu'il y a représentants des employeurs, représentants des salariés. Donc, c'est une juridiction qui est compétente pour intervenir dans le cadre de toutes les relations de contrat de travail définies. Et chaque fois, il faut dire lesquelles, celles qui sont dans le Code du travail.
Et ces conseillers prud'hommaux ne sont plus élus, mais désignés. Pourquoi
c'est ça,
cela...
ils sont désignés. Ça, sur le changement de mode, alors bon, ça a créé des problèmes particuliers. Après, c'est un peu technique, on ne peut pas trop pour rentrer dedans, ça change pas grand-chose sur la structure même des conseillers prud'hommes. C'est vrai que c'est des juridictions qui sont formées, qui sont constituées par des juges qui ne sont pas des juges, qui sont pas des magistrats professionnels. D'où les débats sur leur formation. Il y a beaucoup de... D'ailleurs, le ministère du Travail paye la formation des conseillers prud'hommes. Ça relève de leur budget. Bon, tout ça, c'est des questions qui n'ont pas changé de ce point de vue-là depuis le 19e.
Et pourquoi est-ce qu'on parle d'une juridiction d'exception, Évelyne Cervérin, pour désigner les conseillers prud'hommes?
Alors, moi, je n'aime pas l'expression juridiction d'exception parce que ça rappelle les juridictions d'exception de la Deuxième Guerre mondiale et on évite ça. C'est des juridictions spécialisées. Comme pour les tribunaux de commerce, tribunaux paritaires des baux ruraux, pareil, il y en a, voilà. Mais c'est présidé par un juge professionnel. Donc, je veux dire, c'est juste une juridiction spécialisée. Concrètement, ça veut dire en termes de compétences d'attribution, ils n'ont que les attributions qu'on leur donne spécifiquement. Les juridictions de droit commun, c'est les tribunaux judiciaires. Eux, ils ont une compétence générale, sauf cas particulier, quand il n'y a rien de prévu, c'est eux qui récupèrent un certain nombre d'affaires. Alors, donc, c'est une juridiction spécialisée.
Comment est-ce que ça se passe concrètement, je vous propose justement d'aller faire un tour dans un conseil de prud'hommes.
Il s'agit d'un licenciement pour insuffisance professionnelle. La lettre de licenciement est d'ailleurs longuement motivée.
Le premier élément que je vous demanderais de retenir pour constater l'absence de cause réelle et sérieuse de ce licenciement, c'est de constater d'abord, d'une part, que le passé professionnel de la salariée dit exactement le contraire de ce qui est énoncé dans cette lettre de licenciement. Le fait qu'elle ait régulièrement perçu des primes, primes assises sur la qualité de son travail, et ce depuis l'origine. Vous pourrez également regarder les entretiens annuels d'évaluation. On est systématiquement sur des appréciations qui sont extrêmement élogieuses. Et alors la question qu'on peut se poser, c'est de se demander comment ça se fait qu'on ait gardé cette salariée pendant 7 ans. Je pense que la méthodologie employée qui pose difficulté.
Une insuffisance professionnelle, c'est pas un dossier facile. C'est pas facile surtout pour la salariée qui s'entend dire finalement qu'elle faisait mal le travail quand elle avait été embauchée. D'autant plus que par définition, elle n'a pas commis de faute. Une insuffisance professionnelle, c'est quand même une salariée qui est motivée, qui fait des efforts, à qui on ne reproche pas de faute et qui malgré ça n'y arrive pas. C'est assez cruel, c'est un échec. Il y a un entretien annuel dont on ne vous a pas dit un mot, qui est le dernier entretien annuel, qui est l'entretien annuel d'octobre 2015. Celui-là, il n'est évidemment pas bon d'entretien annuel, puisqu'elle répond partiellement aux attentes. Pour entretien, répondre partiellement aux attentes, c'est une façon polissée de dire que c'est une catastrophe.
Un extrait du documentaire de Justine Talon pour France 3, ça finira au prud'homme, diffusé en 2021. Alors quels sont les principaux motifs de saisie de cette juridiction? Le premier, Julie Valentin, c'est le licenciement abusif.
Oui, c'est clairement devenu c'est vraiment aujourd'hui et depuis longtemps, on peut le dire, un endroit où se discutent les litiges autour de la rupture du contrat de travail et en particulier du côté du licenciement pour motif personnel. En fait, le licenciement économique, déjà d'emblée, il est devenu plus grand-chose.
Et qu'est-ce que ça veut dire, il est devenu plus grand-chose?
Alors
devant les prud'hommes.
Devant les prud'hommes, carrément, il y a très peu de licenciements économiques individuels. Et puis si c'est collectif, s'il y a une question autour des licenciements collectifs, ça ne relève pas des prud'hommes. C'est-à-dire pour discuter du motif économique lors d'un plan de sauvegarde de l'emploi, ça va se passer au tribunal administratif.
Mais ça, c'est une nouveauté. Auparavant, les licenciements économiques collectifs pouvaient être pris en charge par les prud'hommes.
Oui, c'est vraiment passé dans le cadre administratif et c'est là que on va passer par les directions régionales et puis le tribunal administratif pour discuter des modalités du plan de sauvegarde, des motifs. Mais par ailleurs, il y a peu de licenciements économiques. J'ai pas le nombre, mais on est sur un très petit volume de licenciements économiques et dans le licenciement économique, c'est vrai qu'il y en a par contre une partie significative qui est individuelle.
Et alors comment expliquer que le licenciement sans cause réelle et sérieuse, puisque c'est comme ça qu'on l'appelle, soit la principale raison de saisine des prud'hommes, Évelyne Cervérin?
Eh bien, c'est une très bonne question, parce qu'en réalité, toutes sortes de sujets pourraient être traités par les prud'hommes. Et on va revenir sur ce point-là à plusieurs reprises. Parce qu'on peut discuter des conditions de travail, on peut discuter des salaires qui ne sont pas payés, il y a une procédure de référé qui est destinée à ça, mais même au fond, c'est-à-dire qu'on peut saisir le conseil prud'homme, qu'on soit dans l'emploi ou qu'on ait quitté l'emploi. Il se trouve que, avec le temps, on a vu disparaître tous les modes d'action dans lequel le salarié est encore dans l'entreprise. Donc, mais c'est pas juridique. L'obstacle n'est pas juridique.
Oui, c'est l'obstacle. Il est lié au fait que il faut être dans. C'est très compliqué quand on est dans une relation d'emploi de venir faire part de ce qu'on attendait. Donc, ça peut expliquer d'ailleurs on le sent bien dans la pastille sonore que vous avez donnée. On le voit bien. Il y a une tension. Il y a une question morale qui se pose. C'est souvent ce qui va se passer, c'est que les salariés, ils vont avoir à encaisser, accepter un certain nombre de choses. Et c'est au moment du licenciement qu'ils vont revenir pour revenir dire tout ce qu'ils avaient consenti à laisser passer, les heures supplémentaires. Et ça, c'est un point très important aussi pour bien comprendre que les montants qui vont pouvoir être discutés, qu'on entend dans la presse, ils ne sont pas les montants qui correspondent simplement à l'indemnité judiciaire. Souvent, ils renvoient à ce que tout le salarié va venir redire, maintenant que je suis là, alors je voudrais mes rappels de salaire, alors je voudrais que me soient payées mes heures supplémentaires, etc., etc.
Ce qu'il faut préciser aussi, Evelyne Cerverin, c'est que dans 98% des cas, je crois, les plaignants sont des salariés. Donc ils peuvent être des entreprises, mais ce sont plus souvent, très majoritairement, des salariés.
Tout à fait. Et le peu dont on dispose comme information sur les acteurs, enfin les demandeurs qui sont les employeurs, bon, c'est les cas de démission des salariés lorsque ils réagissent. Enfin, ils ne font pas leur préavis, en tout cas, ils les mettent en difficulté. Mais c'est vrai que, abstraitement, on pourrait avoir 50-50. Hein, c'est-à-dire, il se trouve que l'intérêt à agir, il est quand même du côté des salariés et des salariés licenciés. Mmh. C'est ça qui a changé sur les 30-40 dernières années, même on peut dire. On avait quand même beaucoup de contentieux des salaires, des rémunérations. Hein, les premiers travaux celle-ci qu'on avait fait là-dessus, fin des années 90, il y avait une partie très très importante. Là, il ne reste plus rien. Il ne reste plus que le contentieux donc des salariés qui agissent, des ex-salariés qui agissent.
Et quid des cas de harcèlement ? Est-ce qu'ils peuvent être traités au prud'homme, Julie Valentin ?
Alors, les harcèlements, il me semble que c'est possible que ce soit traité au prud'homme. Ça dépend la forme que ça prend. Hein,
plus souvent traité au pénal.
Voilà. Ce qui est compliqué, effectivement, c'est que dans le champ du travail, ça va vraiment dépendre quel type de problème lié aux conditions de travail pour savoir vers quel tribunal on doit s'adresser.
C'est-à-dire?
Par exemple, sur les accidents de travail, ça ne va pas se discuter au prud'homme. En fait, la réparation de la demande de dommages et intérêts, par exemple, pour les accidents de travail, ça va se passer au pôle social du tribunal judiciaire, c'est-à-dire avant, c'était le tribunal des affaires de la sécurité sociale. Et ça va être pareil pour les maladies professionnelles, à de rares exceptions près, mais en gros, c'est ça.
Et ça peut étonner, parce que les prud'hommes sont perçus quand même comme le tribunal du travail, Julie Valentin.
Et bien finalement, aujourd'hui, en tout cas, peu des conditions de travail, et quand ça engage des montants qui vont être payés en réparation d'un accident, ça ne se passera pas par ce...
Evelyne Cerverin ?
Oui, je rebondis tout à fait sur ça. C'est un point qui est très important. Votre remarque le fait penser. Si on se représente les conseils de prud'hommes comme qui traitent toutes les relations de travail, comme le conseil de fabrique de 1806, non. Il y a des compétences, et notamment du tribunal judiciaire, maintenant, avec les juridictions qui sont spécialement désignées pour régler les questions d'accidents du travail, maladie professionnelle. Vous savez, tout le pénal. Et le pénal, c'est les inspecteurs du travail. Les conditions de travail, finalement, elles sont connues maintenant par les inspecteurs du travail. C'est eux qui se déplacent, c'est eux qui identifient les situations de danger, etc. Conseil de prud'homme ne sont absolument pas compétents là-dessus.
Je le disais en introduction, on observe une nette baisse du recours aux prud'hommes. Alors comment l'expliquer ? À quoi servent encore les prud'hommes ? On en parle juste après ça.
Convoqué par le DRH et l'Inquisition, l'ascenseur monte vers la terrasse, je me pose une question. Il me dit, si je considère votre position, descendu par les actionnaires, pliez vos cartons. Je lui dis, il n'y a rien à faire, il me répond, non. Et je redescends sur la terre, reste la question. Bon pour la casse, pas de rédemption. À la question subsidiaire, personne ne répond. Cette question, si je considère les bonnes relations que j'avais dans la tour en verre où je tourne en rond,
le silence de ma secrétaire est beaucoup trop blanc. Mais pour la question suicidaire, c'est pas le moment. Les vigiles de la tour en verre balancent mes cartons. Faut que je m'épasse et y'a rien à faire. Ils me disent non. Bon pour la casse, pas de rédemption. À la question subsidiaire, personne ne répond. Bon pour la casse, pas de rédemption. À la question subsidiaire, personne ne répond. Nos taxis dans cet univers glacé de béton. Je reste là sous la tour Citerre, tout seul comme un con. Disparaît vers 19h30. Cadre supérieur, DRH doit sur la détente, le regard ailleurs. Pauvre cadre tombé d'un sourire, fouille dans ses cartons. La réponse était non, c'est clair. Reste la question. Bon pour la casse.
Vous écoutez France Culture, entendez-vous l'écho, bon pour la casse, c'est le titre de Bernard Lavillier que nous sommes en train d'écouter. Prud'homme, les travailleurs baissent les bras, c'est notre sujet aujourd'hui. Nous sommes toujours en compagnie de l'économiste Julie Valentin et de la juriste et sociologue Evelyne Serverin dans cette émission réalisée par Françoise Le Floc avec l'aide de Véronique Jolivet et mise en onde aujourd'hui par Jordan Fuentes. Alors on l'a dit, on observe une nette baisse du recours au prud'homme, une baisse qui s'est encore accélérée ces dernières années. Quand est-ce qu'on a commencé à observer ce ralentissement, Evelyne Serverin ?
Alors, bon, la baisse, je crois que pour donner un ordre de grandeur, j'ai des données de 2022, on a 100 000 et quelques petites brouettes d'affaires nouvelles, et dans les juridictions, les procédures au fond, 84 000. C'est le plus bas de la décennie. On a quand même été, sur les périodes antérieures, si on remonte 2004, 2010, on en avait plus de 200 000. Donc, divisé par deux.
Divisé par deux. Alors, qu'est-ce qui s'est passé,
Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? D'abord, il y a deux phénomènes. Là, Julie Valentin reprendra la main. Mais il y avait quand même une tendance baissière, légèrement. Et cette concentration sur la contestation des motifs des ruptures, elle date d'avant. Elle a commencé avant. Mais, comme souvent, une petite règle a suffi pour accélérer un processus qui était déjà là, et c'est 2016. Et pourquoi ? Qu'est-ce qui s'est passé en 2016 ? Eh bien, on a modifié la procédure de saisine du Conseil de Prud'homme par voie de requête, en créant un formulaire CERFA qui s'est révélé un piège pour les demandeurs.
Pourquoi cela ? Alors, ce que vous nous expliquez, Evelyne Serverin, c'est que la loi travail de 2016 a apporté beaucoup de complexité, une procédure beaucoup plus difficile, avec beaucoup de questions complexes, là où avant c'était une procédure orale plus facile.
Non, alors elle reste une procédure orale. La question, c'est un décret d'ailleurs. En fait, c'était purement procédural. C'est-à-dire que pour saisir le Conseil du Prud'homme, auparavant, on faisait une simple déclaration en greffe et l'affaire était entrée et les avocats préparaient après, en prenant le temps, préparer les éléments de pièces. Là, il a fallu le présenter tel que... D'ailleurs, cet événement-là était tellement massif que c'est quand même rare dans les aspects statistiques. C'est que entrée en vigueur de ce décret 1er août 2016, avec une chute de 30%. Et ça n'est jamais remonté. Et c'est tellement bien reconnu que la Cour des comptes, qui a rendu un rapport cet été sur les prud'hommes, en citant d'ailleurs nos travaux, a reconnu que ça a été un frein à l'accès au tribunal. Pourquoi ? Parce qu'il y a un coût d'entrée. Il y a eu un coût d'entrée qui a augmenté. Parce que pour pouvoir déposer une requête recevable, il fallait apporter un certain nombre d'éléments, des pièces, pas simplement la complexité d'écriture, mais même avec un avocat. L'avocat, ça lui prend plus de temps. Donc l'avocat a demandé une somme un peu plus élevée pour déposer. Et ça a suffi sur une tendance qui était déjà là. Ça ne l'a pas créé, mais ça l'a accentué, ça l'a accéléré.
Ça l'a d'autant plus accentué qu'un an plus tard, il y a eu les ordonnances de 2017 qui ont instauré ce barème au prud'homme permettant à l'employeur de connaître à l'avance le montant des indemnités qu'il devra régler à son salarié. Ça, ça a été vu comme un cadeau fait aux entreprises, Julie Valentin ?
Disons qu'en tout cas, c'était une demande et c'était posé dans la discussion de la loi comme une demande pour permettre aux employeurs d'être en mesure d'évaluer ce que serait le coût potentiel de toute rupture. Et c'est vrai que c'est facile de déterminer un maximum. Il reste une dimension d'aléa puisqu'il y a un minimum et un maximum. Il y a un plancher, un plafond. Mais ce qui est assez net, c'est que pour toute une partie de salariés, la donne a changé. Alors, je vais citer les travaux.
Allez-y, je vous en prie.
Je vais citer les travaux de Camille Signoretto et Raphaël Dalmasso, qui ont fait une étude pour essayer de voir au-delà de ce que, de toute manière, ça, on le voit, puisque jusqu'à 5 ans d'ancienneté, le barème, il est tel que ce qu'était, on n'atteint pas ce qu'était le plancher pour les entreprises de 11 salariés et plus. Donc on voit bien que ce qui est possible d'être obtenu est devenu bien moins qu'avant. Ce plancher, il était à 6 mois pour ces entreprises-là, entre 2 et 5 ans. Et donc eux, ils sont allés au-delà puisqu'ils ont été vraiment chercher sur un nombre de cas exactement les montants qui avaient été alloués. Et sur, par exemple, 2 ans d'ancienneté, on constate que la moyenne de ce qui est obtenu, c'est 1,63 mois, là où avant, ils auraient pu obtenir 6 mois. Donc ça renvoie, si je peux prolonger, du coup, ça explique en partie aussi la baisse. C'est-à-dire que pour ces salariés qui ont entre 2 et 5 ans, il y a un intérêt à agir qui est devenu extrêmement faible, puisque voilà, on va obtenir, pour quelqu'un par exemple qui a 3 ans d'ancienneté, il peut obtenir entre 3 mois et 4 mois. Donc,
mais quel était l'objectif au départ de ces ordonnances? C'était de lutter contre la peur d'embaucher qui est mise en avant par les entreprises, Julie Valentin?
Oui, ce qui est intéressant, c'est que souvent, c'est ça qui est mis en avant. Mmh. C'est-à-dire l'idée que il y a effectivement certaines représentations économiques qui vont décrire le choix du volume de main-d'œuvre en réfléchissant sur un horizon temporel long. Et on va se dire, bah, effectivement, si j'embauche en me disant que la conjoncture va baisser, alors je risquerais d'avoir un coût de cette embauche à long terme plus long. Alors que, en fait, ce qui est vraiment troublant, c'est que dans ces conditions, ce qui aurait dû être promu, c'est à la limite la baisse des indemnités légales, c'est pas celle qu'on peut obtenir au prud'homme. Or, celles-là ont augmenté. Mmh. Elles ont augmenté, c'est-à-dire qu'on était à 20% par année d'ancienneté, maintenant on est à 25%, donc en gros, après 5 ans, il fallait 5 ans d'ancienneté pour avoir un mois de salaire, et maintenant il n'en faut plus que 4. Mmh. Et donc, bizarrement, alors que c'est ça qui était avancé, c'est ça. Ils ont augmenté les indemnités légales et l'autre partie qui relève de l'abusif, qui relève d'une situation où normalement le salarié vient faire apparaître une cause réelle et sérieuse, c'est ça qui était mis dans une situation. C'est ces indemnités pour quelqu'un qui n'a pas a priori de cause réelle et sérieuse qui vont augmenter pour un abus. Et c'est troublant de penser que c'est rendre l'abus plus aisé, en tout cas calculable, le vider de son incertitude, qui serait un facteur d'embauche.
Et est-ce que sur le plan de l'emploi, la réforme a atteint son but? Est-ce que véritablement les entreprises embauchent plus facilement puisqu'elles savent ce qu'elles vont débourser le jour où elles voudront licencier tel ou tel salarié?
Alors, sous la direction de Camille Signoretto, on a fait une étude sur la dynamique de... Est-ce qu'on pouvait trouver la trace? Prenons au sérieux cette hypothèse. Est-ce qu'on peut trouver la trace d'une rupture de tendance? Donc, ce qu'on observe en regardant entre 2014, où l'emploi reprend, et 2017, c'est pas le cas. Alors déjà, les licenciements, ils ont augmenté de 60% sur cette période. Donc, ils auraient dû normalement être... ils ont augmenté de 60%, ce qui est frappant par rapport à ce dont on discutait sur la baisse des prud'hommes. Finalement, le champ d'application où les gens auraient pu aller à se retrouver à aller au prud'homme, il a augmenté, puisque maintenant, il y a plutôt 500 et quelques mille personnes qui sont licenciées chaque année, là où il y en avait plutôt 400 000 avant. Donc, il y a une grande hausse. Donc ça, c'est le premier point. Et du point de vue des embauches, on voit pas de rupture de tendance. En fait, on voit pas de rupture de tendance sur les embauches en CDI. Et on n'en voit pas non plus sur les embauches en CDD. On aurait pu imaginer qu'en fait, ça amène les gens à se dire, j'ai pas besoin de prendre un CDD pour m'épargner le risque de devoir. Et donc, j'ai plus besoin de ça. Je peux me débrouiller avec le CDI. Et ça, on le voit pas non plus. Si on voit une rupture de tendance, c'est un petit peu Et ça, avec Camille Signoretto, on estime que ça mérite d'être plus étayé que ça. Mais c'est un petit peu sur le licenciement pour faute. On peut voir une légère rupture de tendance. Et pour le coup, si on croit vraiment que les employeurs font ces calculs, c'est-à-dire qu'ils décident de ce qu'ils font en tenant compte de ce qui pourrait se passer par la suite, si on augmente les indemnités légales et dans le même temps, on réduit les montants des dommages qui intérêts qu'on peut obtenir au prud'homme, effectivement, il y aurait une rationalité pour dire qu'on a intérêt à faire du licenciement pour faute, parce que le licenciement pour faute, c'est zéro indemnité légale. Donc, il y a une incohérence, en fait, dans le raisonnement ici qui a amené à prendre cette décision si on analyse les choses du point de vue purement économique.
Vous partagez cette idée, Evelyne Servérin, que les ordonnances Macron ont eu, en effet, sur le nombre de procédures intentées, puisqu'on a compris que pour un salarié qui a entre 2 et 6 ans d'ancienneté, un employeur ne risque désormais plus grand-chose en cas de licenciement.
Alors, plus grand-chose, pas complètement, mais on est en fait d'accord sur l'observation générale, c'est-à-dire la baisse a commencé en 2016, elle a continué en 2017, alors que la loi est entrée à peine en vigueur, mais après, la diminution, elle est tendancielle, il n'y a pas de saut. On ne retrouve pas le saut qu'on a eu. Et il y a question de l'incertitude. Il y a quelque chose dans le mécanisme des ordonnances qui fait que de l'incertitude, il y en a, pour deux raisons. La première, c'est qu'on peut s'affranchir des plafonnements lorsqu'il y a discrimination, harcèlement et toutes les sortes de motifs. Et ensuite, vous avez une fourchette. C'est-à-dire que l'incertitude, c'est pas fixe. Hein, c'est pas tant d'années d'ancienneté et tant tel montant. Donc l'incertitude, elle demeure, c'est l'incertitude judiciaire. Elle est ni plus ni moins. Le mode de calcul supposé est vraiment divinatoire.
L'un des aspects qui explique peut-être aussi cette baisse, Julie Valentin, c'est la création de la rupture conventionnelle en 2008. Donc on peut même dire que cette baisse a commencé vraiment dans les années 2000.
La rupture conventionnelle, c'est 2008. Et oui. Effectivement, on voit un effet sur la baisse. C'est clair qu'il y a un effet. Mais je pense que le point vraiment, ce que décrit Evelyne Servérin, qui est très net, c'est vraiment cette chute brutale au moment où il y a ce changement dans la procédure. C'est vraiment un point très important. Mais il y a peut-être un point supplémentaire à rajouter dans l'analyse de ce changement dans l'usage des prud'hommes, c'est la place qu'y prennent les cadres.
Alors, on va en parler, justement.
Lundi, coup de téléphone, comme quoi, si je pouvais prendre des vacances, parce qu'il n'y avait pas de travail à l'entreprise. Donc, je prends mes vacances. Après, retour à l'entreprise, quand j'arrive, je m'aperçois que l'atelier est vide, tout est rangé. Coup de téléphone du chef d'entreprise qui nous dit que l'activité cessait. Ça fait un choc quand on arrive de voir que, au bout de 15 ans, que tout est prêt à partir en lot pour être vendu, l'entreprise ferme. Ouais. Alors que dans l'année, on a fait énormément de machines. Donc c'était peut-être une des meilleures années. Donc le patron me convoque, me dit que j'ai volé du matériel. Alors que c'est du matériel qui était dans ma voiture depuis peut-être 15 jours, parce que j'étais mis en vacances forcées, et donc je n'allais pas revenir à l'entreprise pour déposer une torch-tig et une meule en bout. Je croyais que j'aurais pu devenir un peu méchant, mais bon, je pense que c'est peut-être aussi ce qu'il cherchait, quoi. Sa première préoccupation, c'était de me licencier sans me donner d'indemnité, quoi. Donc... si j'avais, je sais pas, tapé ou quoi que ce soit, ça aurait été encore plus facile pour lui, je pense.
Voilà un témoignage recueilli pour Les Pieds sur Terre sur France Culture le 10 février 2003. Alors avant de parler des cadres, il faut dire que, en effet, la baisse des contentieux n'est pas uniforme. Ce sont surtout les ouvriers et les employés qui intentent de moins en moins de procédures, Evelyne Servérin.
Oui, alors si on regarde la courbe des baisses, donc il faut juste rappeler pour les conseils de prud'homme qu'il y a 5 sections, en plus la formation de référés, donc agriculture, commerce, activités diverses, encadrement et industrie. Donc ça, on suit depuis la création de la section encadrement, donc depuis fort longtemps, on suit les évolutions. La première baisse, la plus radicale, c'est la section industrie, qui suit la désindustrialisation. Donc effectivement, et il y a eu beaucoup en plus de licenciements économiques. Il y a eu beaucoup de PSE qui font que cela donnait lieu à très peu de recours. Sur ces évolutions, c'est vrai que c'est pas que les cadres sont plus nombreux, c'est que c'est les seuls qui soient restés. C'est-à-dire que les autres sections se sont progressivement étiolées. Donc vraiment,
et pourquoi justement? Parce que ce n'est plus intéressant pour les travailleurs les plus modestes, Julie Valentin, d'intenter une action au prud'homme?
Alors, il y a ce point-là, comme on le voit, effectivement, pour ces ouvriers. Il faut comprendre qu'en fait, les ouvriers et les employés sont ceux pour lesquels la durée d'ancienneté moyenne est la plus faible. Mmh. Donc c'est ceux pour lesquels l'effet va être le plus fort. C'est ceux-là, d'accord? Quand souvent, il y a des questions autour de la protection de l'emploi qu'on souhaiterait alléger parce qu'on veut réduire la segmentation. Or, en fait, la segmentation, elle n'est que démultipliée. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, il faut imaginer que si vous venez pour obtenir 3 mois de dommages et intérêts, c'est compliqué à monter un dossier. Comment vous allez faire pour trouver un avocat qui est intéressé pour vous suivre dans cette démarche? C'est extrêmement compliqué. Donc ce sont les défenseurs syndicaux qui vont jouer un rôle fondamental. Et les défenseurs syndicaux, en fait, pour un défenseur syndical, plaider correctement quand on a l'impression qu'on porte la vie, parce que les gens y mettent leur vie dans leur rupture de contrat de travail, en fait, pour faire un cas, un défenseur syndical m'avait dit qu'il lui fallait 100 heures. Mmh. Et il a 10 heures de décharge par mois pour mener ce travail de soutien dans ce travail-là. Et c'est vraiment impossible qu'un salarié qui est ouvrier et employé puisse se sentir à l'aise, aussi bien au moment de la conciliation ou au moment du jugement, pour se représenter lui-même. Donc il lui faut quelqu'un, et ce sera difficile pour lui trouver un avocat qui aura très peu à récupérer, et donc un intérêt à ça compliqué. Il faudrait multiplier les cas.
Et dans le même temps, est-ce qu'il n'y a pas de plus en plus de cadres qui saisissent les prud'hommes?
Alors, c'est pas qu'ils sont plus nombreux, encore une fois, mais c'est qu'ils ont baissé moins que les autres. C'est-à-dire que c'est les autres qui ont disparu et qui ont fait que progressivement la section est mécaniquement remontée. Et ça démarre d'ailleurs, le vrai passage, c'est 2019, après toutes ces années-là, où pour la première fois, la section encadrement arrive en deuxième position, alors qu'elle était en 2013-14 à peu près, elle était en quatrième position, juste avant la section agriculture.
Mais est-ce que ce n'est pas lié aussi à la réforme de l'assurance chômage, le fait que les cadres sont en tout cas toujours aussi nombreux à intenter des actions au prud'homme, Julie Valentin? Alors, le fait qu'il y a une dégressivité de l'indemnisation pour les prud'hommes.
Oui, c'est récent, ça.
Le point important quand même, c'est de bien voir que, en fait, au prud'homme, les cadres, ils vont représenter 19%. C'est ce qu'ils représentent dans l'emploi. Mais, dans les licenciements, ils ne représentent que 8%.
Voilà.
Alors que les ouvriers et les employés représentent 75% des licenciements, quasiment. Ouais. Et ils vont être beaucoup moins présents que ce qu'ils ne représentent. Donc, peut-être que les intérêts, pour le coup, les intérêts à agir des cadres sont modifiés par le fait que les allocations chômage vont durer moins longtemps, etc. Mais déjà d'emblée, c'est ce point qui est quand même vraiment très important.
Parce que l'exemple un peu archétypal, en tout cas qui peut interpeller, c'est Carlos Ghosn, ex-patron de Renault Nissan, qui a saisi les prud'hommes pour son indemnité retraite. Ça va dans le sens de cette idée d'une justice de classe, Évelyne Cerverin?
Alors, difficile de dire, elle n'a pas été faite pour ça, mais je crois que la notion clé que Julie a évoquée à plusieurs reprises, c'est celle de l'intérêt à l'action. Intérêt à agir, mais monétariser. Pour qu'il y ait un intérêt à l'action, il faut qu'il y ait des salaires élevés, une ancienneté, des éléments de réparation à réclamer, donc pour constituer une valeur du litige. Alors, nous n'avons pas de données directes en statistiques sur la valeur des litiges, il faut faire des enquêtes sur les décisions pour voir ce qu'il y a. Mais, en tout cas, c'est vrai qu'on voit bien que c'est corrélé à la valeur supposée des litiges. On a des variables qui vont dans ce sens-là. Les avocats, les défenseurs syndicaux, ils sont plus là. On n'a quasiment pas d'aide juridictionnelle. C'est-à-dire que les salariés qui demandent, ils sont au-delà des plafonds, même partiels. Vous avez donc effectivement ces présences d'avocats. Vous avez l'âge, parce que non seulement sont des cadres, mais ils vieillissent. Vous avez en
ça
fait...
c'est le cas pour toutes les catégories socio-professionnelles. Ce sont plutôt les salariés les plus âgés qui entendent des procédures.
Mais ils le sont encore plus en encadrement. Et ce qui est intéressant, c'est que finalement, vous dessinez la valeur du litige. Vous êtes un cadre, vous êtes ancien, vous avez des salaires qui sont quand même supérieurs, on a dépassé le SMIC depuis longtemps, et vous accumulez tout ça, vous arrivez à une valeur de litige, c'est cette question-là qui se pose, qui vaut la peine de payer un avocat. Parce qu'effectivement, bien que la procédure soit orale, parce que c'est ça aussi qu'on oublie, on pourrait très bien venir sans avocat, hein, mais ça n'arrive plus du tout, c'est fini. Ça devient des contentieux techniques, surtout quand il faut prouver qu'il y a eu harcèlement, discrimination, refaire des calculs. Ce sont des litiges qui sont techniquement très compliqués.
Ce qu'il faut dire aussi, c'est que les femmes sont toujours minoritaires devant les conseils de prud'hommes, mais leur part augmente un tout petit peu, je crois.
Un tout petit peu, à la marge. Et on les trouve un peu plus en encadrement, mais c'est vrai que elles restent minoritaires. Alors cela dit, on fait des ratios après, hein, c'est-à-dire comme rappelait Julie, ce qu'il faut voir, c'est la population qui est soumise au risque, c'est-à-dire combien il y a de femmes licenciées, combien il y a d'hommes licenciés, de quel âge. Et là, c'est des calculs qu'on fait avec la DARES pour voir ce qu'on appelle la propension à agir.
Elles étaient 37% en 2004. Et aujourd'hui, enfin, c'est un chiffre de 2018, elles sont 40%.
Voilà.
France Culture.
Voici l'insigne de notre fonction. Il s'agit d'une médaille qui, du côté face, présente le profil de la République.
Entendez-vous l'écho?
Et côté pile, il s'agit d'une image montrant le patron, ancienne mode. On se croit chez Zola, serrant la main à l'ouvrier qui est, comme vous pouvez le voir, en pantalon de velours, sous les yeux bienveillants de la justice.
Tiphaine de Roquigny.
Nous continuons à parler des conseils de prud'hommes avec Hélène Cerverin et Julie Valentin. Alors, on l'a dit, le nombre de contentieux baisse, mais pour autant, les conseils de prud'hommes restent très encombrés, Hélène Cerverin.
Oui, les durées de procédure se sont allongées. Alors, pas tellement. Un des facteurs qui est important de la durée, qui est ce qu'on appelle le partage des voix, qui donne lieu à un départage. Et on fait venir un juge judiciaire pour départager, parce que comme c'est paritaire, quand on n'est pas d'accord, il faut quelqu'un qui départage. Donc on tourne autour de 11%. C'est pas énorme, hein, beaucoup moins que ce qu'on aurait pu imaginer. Ça veut dire que globalement, chaque formation est d'accord sur la solution.
Mais alors pourquoi ces conseils sont-ils aussi encombrés?
Alors, parce que les affaires, justement, quand
on
regarde, les affaires, nous on a beaucoup d'hypothèses sur le fait que les affaires se durcissent. Et c'est tous ces éléments, tous ces indicateurs qui permettent de penser que la valeur des litiges augmente. Encore une fois, on n'a pas de données directes, il faut faire des enquêtes sur les décisions pour avoir les montants, puisque le système statistique ne nous les donne pas. Mais toutes les variables vont dans le même sens. Ils sont plus âgés, ce sont des hommes, ils sont plus âgés, ils sont en cadre, et plus âgé veut dire plus ancien.
Et donc accompagné d'un avocat.
Et toujours accompagné d'un avocat.
Et plus d'appels aussi? C'est pour cela que ça dure aussi longtemps?
Oui, alors ce qui est assez drôle, c'est que le taux d'appel a été longtemps très élevé. Non, quand on parle de durée de procédure, on distingue bien la durée de procédure prud'homme, qui est presque 2 ans maintenant, à laquelle on ajoute la durée de procédure cour d'appel, quand il y a un appel. Puis il faut ajouter aussi la durée de procédure cour de cassation, qui est pas mal non plus dans les durées. Donc, sur la question
du taux d'appel, qui est très important.
Oui, qui était très important. Et là, à nouveau, il y a un phénomène tout récent qu'on a vu, c'est qu'il y a eu une réforme aussi sur l'appel qui a rendu plus compliqué le traitement du dossier d'appel et qui a fait baisser de 5 points le taux d'appel. Dès que vous faites une réforme de procédure, beaucoup plus que les réformes de fond, vous modifiez l'accès aux tribunaux. Et là, effectivement, on a une baisse. On était longtemps à plus de 65. Là, on tourne autour de 60. Ça baisse un peu le taux d'appel. Mais c'est vrai qu'on a un problème de procédure. C'est-à-dire que toutes les réformes qui ont été faites, et là, j'insiste sur ce point-là, parce qu'on ne voit pas tellement la situation concrète, tout a été fait pour diminuer le nombre de recours au prud'homme. Tous les moyens ont été bons.
Julie Valentin?
Oui, peut-être pour compléter, c'était vraiment même indiqué, hein, d'une certaine manière, dans les motifs de la loi. C'est-à-dire qu'il y avait une hypothèse qui était que les salariés allaient avec ce qu'ils appelaient un biais d'optimisme, qu'ils espéraient des montants qu'ils n'auraient pas. Et en fait, vraiment, l'échec, pour le coup, des changements qui ont été opérés est magistral, puisqu'on se retrouve avec des durées augmentées, on se retrouve avec une segmentation renforcée. Les économistes diraient presque qu'il y a une anti-sélection. On a évincé ceux qui peuvent avoir un usage des prud'hommes extrêmement important pour faire respecter leurs droits, pour que, en fait, les prud'hommes puissent jouer un rôle de transformation sociale, en fait. Donc, on a vraiment un effet qui est assez inverse de celui qui a été recherché.
Vous parlez de biais d'optimisme, mais quand, en effet, les salariés saisissent les prud'hommes, bien souvent, ils sont découragés de le faire, mais lorsqu'ils le font, pour le coup, ça se solde très majoritairement par une réussite, Julie Valentin. La décision finale est en leur faveur.
C'est ça qui est intéressant, c'est que cette décision finale, mais bien avant, depuis très longtemps, cette décision finale, alors que vous avez, au moment d'être en audience, deux conseillers prud'homaux employeurs, deux conseillers prud'homaux salariés, et ils vont prendre une décision. Et donc, il faut bien, pour que la décision soit à l'avantage du salarié, et elle l'est dans presque trois quarts des cas, il a bien fallu qu'il y ait un conseiller prud'homal employeur qui considère qu'il y avait le salarié avait raison. C'est ce qui est troublant, en fait, dans le reproche qu'on fait au prud'homme, parce qu'en fait, elle produit normalement un effet que tout économiste devrait trouver, et toute personne devrait trouver favorable, puisqu'elle est censée avoir dit qu'ils avaient été à juste titre au prud'homme.
Mais qu'est-ce qui peut faire qu'un salarié est débouté au prud'homme, Evelyne Cerverin ?
Voilà, après, c'est du droit processuel de base. C'est-à-dire, vous devez apporter la preuve de tous les éléments que vous reprochez. Vous devez apporter la preuve que, donc le licenciement n'a pas de cause réelle et sérieuse et que donc, en réalité, c'est d'autres motifs qui le font. Donc, la charge de la preuve repose entièrement sur le demandeur. Mais ça n'est pas une règle spéciale au prud'homme.
Quand on préside, on n'a pas trop le choix. On a la police de l'audience, donc il faut organiser l'audience. Et en même temps, il ne faut pas laisser transparaître nos émotions. Donc c'est compliqué. Des fois, un psy derrière nous ferait du bien pour pouvoir se décharger de tout ce qu'on reçoit, quoi. Et peut-être ça ne se sent pas parce qu'on essaie de prendre de la distance. Mais c'est vrai que franchement, il y a des soirs où on rentre chez soi, on pleure, quoi. Bon, voilà, c'est pas si simple, hein. Pour tous les gens qui sont obligés de juger les autres, ça doit être comme ça, quoi. C'est compliqué. Peut-être encore plus dur en droit pénal, peut-être. Hein. Je sais pas, quand on envoie quelqu'un en prison pour 20 ans, ça doit pas être simple quand même de digérer tout ça. Mais alors nous, on les envoie pas en prison, sauf que quand on déboute un salarié, alors que peut-être il avait raison et qu'il avait pas dans son dossier tous les éléments pour qu'on lui donne raison, on renvoie quelqu'un à sa misère à la fois pécuniaire, mais à la fois morale, quoi, avec tout ce que ça entraîne derrière. Et des fois, on dort pas bien, ouais.
Voilà, c'était Catherine Vinellari, présidente d'audience au micro de Justine Talon pour France 3. Que vous inspire ce témoignage, Julie Valentin, sur la difficulté de la tâche pour les juges qui siègent au prud'homme ?
Oui, on voit bien, en fait, ce que je trouve très fort dans ce qu'elle raconte, c'est à quel point la relation d'emploi, c'est vraiment pas une relation comme les autres. Donc, ils sont face à un drame humain. C'est vraiment les termes... Il se passe quelque chose qui est sur le terrain de la morale et les économistes veulent que ce soit sur le terrain de la rationalité instrumentale. Or là, il y a des gens qui vont arriver, et de part et d'autres. Ce qui va être invoqué très souvent, c'est la trahison. Aussi bien des employeurs qui vont avoir décidé de licencier en disant, les petites entreprises, vous voyez, qui connaissent bien leurs salariés, qui vont dire, vu comment il a parlé de moi, vu, etc., avec un arbitraire du licenciement, mais avec un sentiment de trahison pour quelqu'un qu'ils ont suivi. Et le salarié qui a l'impression parfois d'avoir donné sa vie à son entreprise et qui se sent complètement trahi de ne pas avoir sa reconnaissance. Et le point qu'elle raconte, qui est important sur le fait d'être débouté, c'est qu'effectivement, en fait, ce qu'on voit mal aussi, c'est qu'avoir une cause réelle et sérieuse pour licencier, c'est facile. On a toujours cette image que licencier, c'est compliqué et c'est impossible. En fait, on peut toujours licencier un salarié. Parfois, ça va être donc sans cause réelle et sérieuse et un employeur peut décider, maintenant encore plus, puisqu'il sait le maximum que ça lui coûtera. Mais la cause réelle et sérieuse, dans l'exemple qu'on avait eu encore avant, là, une personne qui a plusieurs fois n'a pas fait correctement son travail et qu'on a relevé ses manquements à l'exécution de sa tâche, ça va être quelqu'un dans lequel on va pouvoir avoir construit la cause réelle et sérieuse. Et en face de ça, le juge prud'homal, il ne pourra que reconnaître qu'il y avait une cause réelle et sérieuse et il va se retrouver débouté.
Mais l'insuffisance professionnelle, justement, c'est particulièrement difficile à prouver. Mmh. J'imagine que cela crée des débats un peu sans fin entre les juges, Evelyne Cerverin.
Alors là, on est sur un terrain où l'observation ne peut plus être statistique, mais il faudrait être à la fois de l'observation d'audience, mais plus que ça. Il faudrait vraiment travailler sur les décisions. Alors, heureusement, il y a quelques chercheurs courageux qui se lancent dans les études de décision, dont Julie Valentin, Camille Signoretto et Raphaël Dalmasso. Moi, je l'ai fait dans mon temps. Hein, on a travaillé sur des décisions prud'homales il y a 30 ans de ça, pour arriver vraiment à l'objectiver. On peut citer des cas. Mais pour arriver à le généraliser, c'est difficile. Tout ce qu'on peut constater, c'est qu'effectivement, globalement, les salariés obtiennent proportionnellement, enfin, dans les trois quarts des cas, quelque chose. Le problème, c'est qu'on ne sait pas ce qu'ils obtiennent.
Ouais. Et donc, il peut y avoir des différences énormes entre les sommes maximales, les sommes minimums qui peuvent être obtenues,
Oui, je voulais rebondir quand même sur votre question précise sur l'insuffisance de résultats. Ce qui est intéressant, justement, c'est une autre fonction sociale du prud'homme. Ça va être d'aider à l'interprétation de la règle. Quand avec Camille Signoretto, on avait regardé, et effectivement, il y a une montée importante du licenciement pour motif personnel, avec l'insuffisance de résultats qui va arriver dans les années 2000. Et il y a tout un travail qui va être amené. Alors, ça se passe pas aussi... Je vais faire une vision un peu mécanique qui est pas tout à fait celle qui peut se passer, mais c'est un usage possible des prud'hommes. C'est-à-dire soit des employeurs, soit des salariés qui vont aller en appel, qui vont faire en sorte que ça remonte, si je puis dire, jusqu'à la Cour de cassation, et que la Cour de cassation soit amenée à réinterpréter et à redire comment il faut le penser. L'insuffisance de résultats, c'est-à-dire que l'insuffisance de résultats, ça peut pas être n'importe quoi. Et donc, au fur et à mesure, la Cour de cassation, elle a été amenée à dire que ça n'est pas possible d'être dans l'insuffisance de résultats si on a fixé des objectifs trop importants, etc., etc. Et donc, il y a un travail qui peut être fait à la Cour de cassation pour dire comment interpréter. Et donc, il y a un façonnage social dans toutes les étapes du contentieux qui est riche pour la société, qui doit être préservée.
On arrive au terme de cette discussion. En guise de conclusion, peut-être, à quelles conditions, selon vous, les prud'hommes pourraient-ils devenir un levier de transformation sociale? Vous évoquiez cette expression, Julie Valentin, afin d'améliorer les conditions de travail et d'emploi, Evelyne Cerverin.
Alors, je pense qu'un point qu'on n'a pas eu le temps d'évoquer, mais qui me paraît tout à fait essentiel, c'est revenons à l'histoire. Les conseils de prud'hommes étaient des conseils de fabrique. On savait ce qui se passait dans les entreprises. Donc, il y avait, derrière le cas individuel, il y avait du collectif. Là, on a perdu le collectif. On a renvoyé, contentieux individuel, hein, c'est vraiment un litige individuel. Mais comment remettre de l'intérêt collectif dans des affaires, une collection d'affaires individuelles? Et là, il y a certains mécanismes qui permettent, avec des acteurs courageux, certains avocats, des défenseurs syndicaux, arriver à faire monter des affaires en série. C'est-à-dire, voilà, il y a l'entreprise machin, mais il y a 50, 100, 150 salariés qui sont concernés. Et ça, ça va exercer un poids.
Julie Valentin ?
Oui, on voit bien en tout cas que là, il y a une architecture entre le rôle que peut jouer l'inspection du travail, le rôle fondamental que jouent les syndicats dans une situation qui est devenue très compliquée avec les ordonnances Macron où la charge de l'ensemble de ce qu'il y a à mener, qui est presque administrative, les empêche de bien mener ces actions, mais c'est avec aussi les syndicats et avec effectivement cet espoir qu'il puisse y avoir des collections de cas qui rendent beaucoup moins lourd pour ceux qui les défendent de soutenir les salariés aux plus faibles anciennetés, aux qualifications les plus faibles, qui sont ceux qui supportent l'ensemble des risques les plus importants. C'est sur eux que se concentre le plus de ruptures de CDI, et c'est ceux qu'on trouve maintenant les moins souvent au prud'homme.
Merci beaucoup Julie Valentin et Evelyne Cerverin. Je rappelle, Julie Valentin, que vous êtes maîtresse de conférences en économie à l'Université Paris 1. Evelyne Cerverin, juriste et sociologue, directrice de recherche émérite au CNRS. Et un grand merci également à Louise Hilerito à la technique. I got up and I got it by your absence in my slip. Overwhelming in my steps. We've been loved and we've been left. I like you. fin d'Entendez-vous l'écho. Un grand merci à tous d'avoir été avec nous. Comme chaque jour, on se quitte avec une découverte musicale. Aujourd'hui, Heartland, le nouveau titre du chanteur anglais Fontana Rosa, extrait de son album Take a Look at the Sea, qui sortira le 19 avril prochain. Demain, nous nous pencherons sur l'économie selon Jules Verne avec Jean Demerliac et Jean-Yves Mollier. D'ici là, vous pouvez retrouver toutes nos émissions sur franceculture.fr et sur l'appli Radio France. On vous attend également sur X, sur le compte d'Entendez-vous l'écho.